été avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus au standard, vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. N'oubliez pas évidemment les réseaux sociaux, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone, car le principe de cette émission, c'est que vous soyez avec nous en direct sur l'antenne. Donc on a besoin évidemment de vous recontacter. Et puis dans 30 minutes, nous dresserons ensemble un bilan du dialogue politique en Guinée. Après 3 semaines de concertation, plusieurs accords ont été trouvés entre l'opposition et la majorité présidentielle. Les victimes des violences électorales de 2013 seront indemnisées. Les élections locales qui sont attendues depuis 2010 se tiendront finalement en février prochain. Le fichier électoral sera également révisé, tout comme la commission électorale qui sera pour sa part réformée. Alors que vous inspire finalement toutes ces avancées? Partagez-vous l'optimisme ambiant, optimisme constaté au sein de la classe politique guinéenne? En tout cas, lundi, le ministre de l'administration du territoire affirmait que le peuple guinéen pouvait se féliciter de ce dialogue. Les Guinéens se sont parlé, les Guinéens se sont mis d'accord, a déclaré le président du dialogue. On en parlera évidemment, c'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Je regarde déjà la page Facebook de l'émission et vous êtes nombreux à souhaiter prendre la parole tout à l'heure. 33 9 693 693 70. Allez, passons tout de suite au standard. Une première question, question sur l'annulation de la visite de Vladimir Poutine en France. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun. On vous écoute.
Oui, je suis à Yaoundé. Ma question, c'est relative à la crise syrienne. Alors, le samedi dernier, la Russie avait mis son veto aux Nations Unies à la résolution de la France appelant à la cessation des bombardements sur Alep. Or, entre-temps, le président russe devrait se rendre à Paris le 19 octobre prochain, mais à la dernière nouvelle, ce dernier a reporté sa visite. Alors, ma question est de savoir quelles sont les conséquences de ce bras de fer entre la France et la Russie sur la guerre en Syrie. Et quels sont les moyens de pression que la France peut exercer sur la Russie à court terme?
Ouais, un vent glacial, effectivement, entre Paris et Moscou. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Journaliste au service international d'RFI. Alors effectivement, le président russe était censé venir à Paris mercredi prochain pour inaugurer un centre spirituel et culturel orthodoxe. Alors il y a eu ce veto russe à l'ONU. François Hollande s'est ensuite ouvertement posé la question sur la nécessité ou non de recevoir son homologue Vladimir Poutine. Et puis il y a eu également les propos de Jean-Marc Ayrault, le chef de la diplomatie française, qui avait mis en doute cette visite qu'il a lui-même qualifiée de mondaine alors que la Russie était en train de bombarder Alep. En toile de fond, on voit bien qu'il y a la guerre en Syrie. Quelles peuvent être les conséquences de ce bras de fer entre Paris et Moscou sur le conflit syrien?
Alors, on voit surtout que le conflit syrien est à l'origine de ce bras de fer. L'inverse est beaucoup moins vrai. Il ne faut pas s'attendre à des conséquences sur le terrain. Pourquoi? Parce que l'implication des deux pays dont on parle, la France et la Russie sur le terrain, est extrêmement déséquilibrée. La Russie, on peut le rappeler, est entrée en guerre massivement en Syrie il y a de cela quasiment un an, oui, tout juste, à quelques jours près. Et elle est donc devenue l'un des belligérants de ce conflit. Cela pèse sur l'échiquier militaire syrien. C'est aussi sa place dans le monde et la volonté de retrouver une puissance passée que la Russie joue dans cette crise syrienne. Voilà pour l'implication de la Russie. Celle de la France aujourd'hui est beaucoup plus limitée puisque militairement, la France est impliquée au sein de la coalition internationale qui frappe l'État islamique en Irak et en Syrie et n'est pas belligérante en dehors de cette coalition. La France ne peut exprimer ses vues sur le dossier syrien dans la guerre en Syrie qu'à travers les forces qu'elle soutient politiquement, l'opposition à Bachar al-Assad, et à travers la diplomatie. Or, on le voit bien, la diplomatie, c'est ce qui a échoué à plusieurs reprises cette année. Les tentatives de négociations organisées par l'ONU à Genève au début de cette année encore une fois, le texte présenté par la France, discuté à l'ONU la semaine dernière et qui s'est soldé par ce veto russe. On voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs, à commencer par le régime de Bachar el-Assad et ses alliés russes et iraniens, estiment que l'issue, en tout cas à court terme, et malgré des déclarations quelquefois contraires, l'issue du conflit syrien est militaire et certainement pas diplomatique, en tout cas à ce stade. C'est donc une impasse diplomatique avec les civils qui ont payé le prix.
Et quels sont les moyens de pression dont dispose aujourd'hui la France sur la Russie pour essayer de convaincre Vladimir Poutine de changer de stratégie, notamment concernant les bombardements sur Alep?
Très peu de moyens dont la France dispose seule. Alors, ce qui vient de se passer est un moyen de pression, même symbolique, hein, dire oui, Vladimir Poutine peut venir à Paris, mais seulement pour parler de la crise syrienne, ce qui entraîne l'annulation de la visite du président russe. C'est un message symbolique, c'est donc un levier, avec encore une fois très peu de conséquences sur le conflit. On pense aussi à un certain nombre de sanctions qui pourraient être prises collectivement. Il y a les sanctions qui existent déjà contre la Russie dans la crise ukrainienne, elles ont été prolongées, elles seront de nouveau examiné, cela peut faire partie du paysage. On émerge aussi l'idée de sanctions visant la Russie dans le dossier syrien. On en parle aujourd'hui aux États-Unis et en Allemagne. La France pourrait se joindre. Il y a aussi des déclarations françaises qui concernent la Cour pénale internationale. D'un point de vue juridique, c'est très très peu vraisemblable de voir la Russie un jour.
D'autant que la Russie n'a pas ratifié le traité de Rome, donc ne reconnaît pas ces pays.
Mais l'évoquer, c'est également faire pression, en tout cas mettre la Russie au pied du mur. Il y a aussi ces voix qui se sont élevées pour appeler au boycott de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie. Donc, il y a des pistes. On voit bien qu'à l'arrivée, ces dernières années, qu'il s'agisse de la crise ukrainienne ou de la crise syrienne, les pressions sur la Russie n'ont pas fonctionné. La Russie n'est pas isolée. Pour preuve, sa récente réconciliation avec la Turquie, on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu pour la Russie dépasse largement le théâtre syrien. Et c'est la volonté, encore une fois, de retrouver sa place dans le monde et son tête-à-tête avec les États-Unis qui se joue aussi dans cette crise syrienne.
Le bras de fer Paris-Moscou vous intéresse? Vous avez peut-être envie de réagir sur cette actualité? On pourra bien évidemment y revenir vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Merci Nicolas Falaise. On remercie évidemment Olivier qui nous appelait de Yaoundé. Hier, nous avions à l'antenne Alpha qui est en Guinée. Il n'a pas eu le temps de poser toutes ces questions concernant le prix Nobel de la paix qui a été remis vendredi dernier, vous le savez, au président colombien, le président Juan Manuel Santos. Bonjour Alpha.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Comme promis, nous vous rappelons et vous allez pouvoir poser votre dernière question.
Ok, la question est la suivante. Pourquoi le responsable des FARC, le nommé Timoshenko, lui n'a pas été récompensé par ce prix Nobel de la paix 2016, étant donné qu'il a été un acteur incontournable pour la signature de ces accords de paix avec les FARC?
Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'en l'occurrence, cet accord de paix en Colombie a été signé par deux personnes, par le président Juan Manuel Santos et par Timoshenko, le leader des FARC, Jimena Reyes. Bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Merci d'être avec nous à nouveau sur l'antenne d'RFI. Vous êtes la responsable du Bureau des Amériques à la Fédération internationale des droits de l'homme. On avait l'habitude, au sein du comité Nobel, lorsqu'il s'agissait de récompenser un prix pour la paix, de voir les différents signataires être récompensés. On se souvient récemment, dans l'histoire, en 94 en tout cas, Yasser Arafat, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, après les accords d'Oslo entre Israël palestinien, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk pour l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud, c'était un an plus tôt en 93, et puis il y a eu en 78 également pour récompenser les efforts de paix entre l'Égypte et Israël, Anwar el Sadat et Menachem Begin. Comment se fait-il que cette fois-ci, le comité Nobel n'a pas voulu d'une certaine façon saluer aussi l'œuvre de Timoshenko et le fait qu'il ait accepté de signer cet accord de paix?
Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il faut préciser que Timoshenko a réagi tout de suite, quelques heures après l'octroi du prix, et il a dit « je ne me sens pas exclu du prix ». Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on arrive vraiment à une paix avec justice sociale. Et c'est vrai que le Nobel, même s'il n'a pas donné le prix aux deux acteurs qui ont signé l'accord de paix a bien précisé que le prix allait à l'ensemble des Colombiens qui ont contribué à l'accord de paix. Alpha a tout à fait raison de poser cette question. Il y avait d'ailleurs eu des fuites dans la presse qui disaient que l'accord avait été signé et que le référendum qui a eu lieu le 2 octobre avait été favorable à l'accord, il était prévu d'octroyer le prix Nobel de la paix à Santos, à Timoshenko et à 5 victimes. Simplement, il y a quand même eu le 2 octobre et le Nobel avait besoin d'en prendre compte parce que vous savez que le 2 octobre, il y a donc eu un référendum où on demandait à la population colombienne si elle était d'accord ou pas avec l'accord qui venait d'être signé quelques jours avant. Et à 50 000 voix près, avec plus de 60% d'abstention, certes, mais c'est quand même le non qui l'a emporté.
C'est une petite majorité des électeurs colombiens qui ont voté contre cet accord de paix.
Exactement. Donc évidemment, j'imagine très bien que le Nobel se trouvait un peu dans une situation délicate et ce choix de ne récompenser que Santos, tout en précisant que le prix va à l'ensemble des Colombiens qui agissent pour la paix, c'est une manière de soutenir la paix qui, pour l'instant, est un objectif plus qu'une réalité, mais de ne pas rentrer dans un affront à cette population, à ces gens qui ont voté non. Et c'est arrivé à un moment très très opportun parce que au moment où a été annoncé le prix Nobel, il faut bien dire que la Colombie se trouvait et se trouve encore un peu dans une impasse totale. C'est un peu comme le lendemain du Brexit où à la fois le gouvernement qui a signé l'accord semblait ne pas avoir de plan B en cas de vote négatif, mais aussi tous ceux qui ont soutenu le non n'avaient pas de propositions concrètes à faire sur comment est-ce qu'on allait de l'avant. Et là, l'arrivée du prix Nobel, mais aussi la réaction de la citoyenneté qui a manifesté de manière massive en disant oui et non, ensemble, pour la paix, plus jamais de guerre. Ces deux éléments ont contribué à ce qu'une petite fenêtre s'ouvre pour continuer à avancer.
Donc il faut y voir un encouragement pour remettre en selle les partenaires de la paix. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de ceux qui avaient appelé à voter non. C'est le cas évidemment de l'ex-président Mario Uribe qui, en apprenant que son adversaire politique, le président Santos, était Nobel de la paix, a quand même tweeté en le félicitant, en le saluant et en déclarant qu'il espérait que ça allait permettre une renégociation des accords en Colombie. Jimena Reyes, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du Bureau des Amériques de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Alpha, bonne journée. Vous nous appeliez de l'Elouma, c'est dans le centre de la Guinée. On a été ravis de vous avoir au téléphone. Jean-Jacques Loirne, du Service Afrique, il est là, il patiente depuis le début de cette émission. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Juan.
Je vous cache pas qu'on essaie de rappeler Tige à Bordeaux, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. On tombe systématiquement sur sa messagerie. C'est bien ça, effectivement. Donc, je vais me faire son porte-parole.
Je reviens pas demain.
Vous inquiétez pas. Je me fais son porte-parole, j'ai retrouvé sa petite fiche. Tige a des questions effectivement sur la situation au Darfour. Amnesty International accuse le pouvoir soudanais d'avoir utilisé des armes chimiques au Darfour. Et Tige nous demande, étant donné les restrictions et la situation sécuritaire sur place, comment Amnesty a fait pour réaliser cette enquête? C'est vrai que il est compliqué pour les journalistes et pour les organisations humanitaires d'aller sur le terrain. Comment Amnesty International a pu arriver à de telles conclusions?
Oui, Tige décrit là un huis clos, un terrible huis clos, car effectivement aucun enquêteur, aucun journaliste ne peut mettre un pied dans le Djebel Mara. Alors donc effectivement, comment Amnesty International a-t-elle enquêté? Eh bien, deux moyens, les images satellites, très précises bien sûr par définition, et le témoignage d'environ 200 personnes témoins de ce huis clos, donc des rescapés, des familles de victimes. Évoquons, Juan, un petit rappel d'abord. Les images satellites, c'est quoi, c'est comment? Tout d'abord, vous savez qu'il y a deux sortes d'images satellites, les militaires et les civils commerciaux. Les premiers satellites militaires sont lancés dès 1960. Il faut attendre en fait les années 70 pour l'essor des satellites civils. C'est tout d'abord la série Landsat lancée par la NASA qui fournit des images d'une résolution de 100 mètres puis 30. À ce stade, le département américain de la défense met son veto à toute amélioration supplémentaire. La France, avec son spot 1 en février 86, fait tomber ce rempart sécuritaire. La résolution des images passe à 10 mètres. En 87, Moscou passe à 5 mètres, puis à 2 mètres en 92. Washington réagit et autorise la commercialisation d'images d'une résolution de 3 mètres. Et Bill Clinton, en 94, franchit le pas, on passe à 1 mètre de résolution. Donc c'est une véritable course. Donc depuis les années 70, Juan, l'imagerie spatiale est disponible à un état, une société, un média, et il suffit donc en quelque sorte de payer.
Ouais. Payer, ça coûte combien ?
Alors, ça coûte combien ? Eh bien, c'est au moins une image, 1000 dollars. Mais cela dépend de plusieurs paramètres, bien sûr. Le temps géostationnaire passé au-dessus de la zone indiquée, la résolution. Et il faut parfois des centaines d'images, effectivement, pour une telle enquête. On peut imaginer, bien sûr, Juan, que les humanitaires ont un prix. Un dernier mot, il ne suffit pas d'avoir des images satellites, il faut les analyser. Et là, Amnesty International a fait appel à deux experts en armes chimiques qui ont validé l'utilisation de gaz tels le gaz moutarde et ses dérivés. Toutes ces données ont été recoupées, confrontées aux témoignages, au dire des témoins, rescapés, familles, qui ont expliqué ce qu'elles ont vu, perçu, senti, la façon dont les gens mouraient, l'état des cadavres.
Oui, entre 200 et 250 personnes ont été tuées lors de ces attaques à l'arme chimique. On parle de gaz moutarde, même s'il est compliqué, évidemment, de déterminer avec exactitude les agents chimiques utilisés par les forces gouvernementales soudanaises. Il faut véritablement aller sur place pour réaliser ces tests. Jean-Jacques, on a dit l'essentiel. Merci beaucoup d'être venu. Vous souhaitez rajouter quelque chose peut-être ?
Écoutez, oui, parce qu'effectivement l'ONU a demandé à Khartoum bien sûr de s'expliquer, de faire toute la lumière sur les accusations d'Amnesty International. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, une agence des Nations Unies, elle a déclaré qu'elle aurait besoin de plus de preuves pour une enquête. La France et le Royaume-Uni réclament cette enquête. Le Soudan a démenti bien sûr cette utilisation des gaz moutarde notamment. Et Moscou déclare que ces allégations d'Amnesty International ne sont pas sérieuses. Alors voilà, nous en sommes là, blocage total.
Le rapport d'Amnesty est incorrect. Voilà comment a réagi le porte-parole de l'armée soudanaise après le rapport d'Amnesty International. Merci Jean-Jacques Loirne et j'espère que Tige pourra réécouter vos explications sur notre site internet www.rfi.fr. Une dernière question, on va s'intéresser aux élections législatives au Maroc. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Ok. Alors, tout récemment, le Parti islamique a remporté les élections législatives ici au Maroc. Alors, comment expliquer que parmi tous les pays concernés par le printemps arabe, seul le PJD a réussi à se maintenir au pouvoir ?
Alors ça, c'est effectivement une très bonne question. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Tunisie ou en Égypte, seul le PJD au Maroc, le parti islamiste marocain, est encore au pouvoir après les printemps arabes. Sarah Doublier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'RFI au Maroc. Comment expliquer cette spécificité du PJD, le Parti Justice et Développement ?
Alors, il y a trois facteurs principaux qui expliquent le maintien du PJD aux affaires après le printemps arabe. Tout d'abord, le Maroc a adopté en 2011 une nouvelle constitution pour répondre aux revendications demandant plus de liberté individuelle, plus de transparence dans l'organisation du scrutin. Les élections législatives anticipées qui avaient suivi avaient marqué la victoire historique de la formation islamiste au Maroc et l'accès au pouvoir du PJD resté pendant longtemps dans l'opposition, ainsi l'on puisse dire, calmer la rue contestataire et satisfait une large partie de l'opinion favorable à ce parti. Deuxième facteur, c'est que contrairement aux autres formations issues des frères musulmans, pendant 5 ans, le PJD a dû gouverner au sein d'une monarchie, le roi restant l'arbitre suprême dans les grandes questions et décisions. La marge de manœuvre du parti d'Adelila Ben Kiran demeure limitée à l'accord du souverain chérifien. Et la formation du Premier ministre n'a aucun intérêt à aller à l'encontre de la volonté royale sous peine d'être exclu de la vie politique et de voir monter son impopularité car le roi reste une figure incontestée pour l'immense majorité des Marocains. Puis il faut aussi dire que la campagne du PJD cette année, menée sous le discours anticorruption et au référentiel religieux, continue à largement séduire les classes moyennes et populaires.
Effectivement. Et puis, il y a eu un autre élément d'explication, c'est l'effort de transparence lors du scrutin qui s'est déroulé vendredi dernier. Sarah Doublier, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On est obligé de rendre l'antenne pour retrouver la rédaction et le point complet sur l'actualité. Et tout de suite après, nous vous donnerons la parole, vous, Guinéens, qui nous appelez très nombreux ce matin pour faire le point sur le dialogue politique.